Vous ne me connaissez pas, je suis en visite. C'était un petit peu facile pour l'évangile du jour, mais ça permet de l'introduire. Aussitôt l'ange de l'Annonciation disparut, Marie se met en route, avec empressement, pour aller visiter sa cousine Élisabeth. Est-ce pour vérifier l'annonce de l'ange au sujet de l'enfant à naître, en constatant qu'il n'a pas menti au sujet de sa cousine ? Peu probable, Marie n'a jamais vraiment douté. Est-ce pour aller porter secours à cette parente qui doit affronter une grossesse imprévue à un âge déjà bien avancé ? Sans doute, car la charité la presse. Est-ce pour lui annoncer la nouvelle extraordinaire de sa propre grossesse, tout aussi miraculeuse et même infiniment plus encore ? Probablement. Quoi qu'il en soit, voilà Marie sur les chemins. Lorsqu'elle arrive enfin chez sa cousine, l'Écriture nous précise que Marie entre dans la maison et salue Élisabeth. Que s'est-il passé avant cette salutation ? Il y a dû y avoir un grand silence. Ces deux femmes se connaissent à peine. L'éloignement géographique s'ajoute à la différence de génération. Marie, dans la fleur de l'âge, et Élisabeth, déjà rassasiée de jour, se contemplent l'une l'autre dans un grand silence et un grand étonnement. L'échange de regards entre les deux femmes, on peut l'imaginer, est intense. À la vérité, ni Marie ni Élisabeth ne peuvent encore parler. Ce n'est pas seulement la gêne ni l'étonnement qui provoquent un tel silence. Ça n'est pas encore l'adoration ni la louange, parce qu'Élisabeth ne sait pas encore ce que Marie va lui annoncer. Non, le silence entre ces deux femmes procède d'une raison beaucoup plus profonde. C'est que la voix d'un côté et la parole de l'autre demeurent cachées. La voix, c'est Jean-Baptiste dans le sein de sa mère, voix qui criera dans le désert pour annoncer la venue de l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, cette voix-là n'a pas encore retenti, elle est cachée, muette. Et quand on l'entendra, elle fera trembler les cœurs trop engourdis pour une conversion radicale. La parole, c'est Jésus, le Verbe fait chair, qui dans le sein de Marie n'est pas encore pleinement manifesté. Cette parole, ce mot d'amour du Père envoyé à l'humanité, n'a pas encore été prononcé à la face de la terre. Quand on l'entendra, Dieu aura tout dit de lui-même, tout sera accompli. Et alors, Élisabeth est littéralement sans voix, et Marie, littéralement sans parole. Et pourtant, le silence entre ces deux femmes, déjà dans le secret, dit Dieu, dit quelque chose de Dieu. Un secret, ça se murmure dans un souffle. Et c'est bien l'Esprit Saint, souffle divin, qui a poussé Marie jusque chez sa cousine et qui brûle de commencer son œuvre de révélation du Fils. Le silence était devenu si pesant en Israël, au point qu'on disait « Dieu se tait, il n'y a plus de prophète ». Le prêtre Zacharie, le mari d'Élisabeth, avait subi en sa chair ce silence, lui qui était devenu muet pour avoir douté que Dieu puisse parler encore. Un si long silence, un silence de plusieurs siècles, ne pouvait pas être rompu si facilement. Les deux femmes donc se font face, l'une jeune comme la grâce dont elle est comblée, comme l'Église dont elle est la figure, l'autre vieille comme la loi qu'elle a observée avec son mari Zacharie, comme la synagogue dont elle est le dernier feu. À vrai dire, le contraste des âges et la différence de situation par rapport à l'Alliance n'est pas si grand. Elles ont le même âge au seuil de la promesse, l'âge d'Adam, l'âge d'Abraham, l'âge de Moïse, l'âge de l'enfant que vous étiez autrefois pour la plupart d'entre vous au moment de recevoir le Christ dans l'hostie pour la première fois, l'âge de l'enfance par excellence inaugurées au baptême. En fait, elles sont au même âge, c'est-à-dire ce matin du monde, comme nous le sommes tous, lorsque le Seigneur vient faire toute chose nouvelle dans notre vie. Puis Marie brise le silence, enfin, en saluant Élisabeth. Là encore, l'Écriture ne nous rapporte pas les termes exacts de cette salutation initiale. Ni la voix, ni la parole, encore une fois, n'ont été manifestées. On sait seulement que c'est Marie qui a pris l'initiative. Et alors Jean-Baptiste tressaille dans le sein d'Élisabeth. La voix a reconnu la parole toute proche, et donc le dialogue entre Marie et Élisabeth peut commencer. Jésus, dans le sein de Marie, ne bouge pas. Aucune réaction de sa part. Dans ce récit d'évangile, tout le monde bouge. Marie a couru dans les montagnes, Élisabeth a ouvert sa porte, Jean-Baptiste tressaille dans le sein de sa mère. Il n'y en a qu'un qui semble ne rien faire, Jésus. Lui, Jésus seul, n'agit pas, semble ne rien faire. L'heure n'est pas encore venue, comme il le dira à sa mère à Cana plus tard. Oui, sans doute, mais plus profondément, quelle leçon pour nous. Alors que tout s'agite, Jésus demeure caché, semble se taire. Invisiblement, c'est pourtant lui qui est le moteur de toute l'action, qui opère par son Esprit Saint toute cette histoire sainte qui se déroule en vue de lui, autour de lui. Et le secret du discernement spirituel est peut-être là, savoir reconnaître Jésus qui agit en nous, en notre prochain et dans les événements, alors même qu'il se tait et semble ne rien faire. À la salutation de Marie, Élisabeth répond par une confession de foi. Quels qu'aient pu être les mots exacts de Marie, Élisabeth a compris. Sous la motion de l'Esprit-Saint, elle a compris que Marie portait en elle la parole, le Verbe incarné, que son fils Jean-Baptiste aurait pour charge d'annoncer de sa voix puissante. Lorsqu'Élisabeth s'écrie « Heureuse celle qui a cru à l'accomplissement des paroles dites de la part du Seigneur », c'est bien de Marie qu'Élisabeth parle. Mais à vrai dire, Élisabeth elle-même est concernée, puisqu'elle va connaître la joie de la maternité pour avoir cru aux paroles de Dieu. Pour ces deux femmes, une réponse de foi à l'incroyable est le chemin du bonheur. Et pour nous aussi, heureux, bienheureux, vous tous ici rassemblés, vous qui, visiblement, puisque vous êtes là, avez cru à la parole que Dieu vous adresse personnellement en cette veille de Noël. Si Marie est bien la figure de l'Église, alors cette visite à Élisabeth doit nous être un enseignement. D'abord, c'est à l'Église de prendre l'initiative de visiter même ceux qui ne l'attendent pas. Pas de timidité, de peur de déranger ou de faux respect humain. Quand on a la bonne nouvelle du salut à annoncer, on y va tout de suite, avec empressement. Et pour ça, il faut marcher, se fatiguer à travers les montagnes et les obstacles de toute nature. Marie n'a pas hésité. Donc Marie, figure de l'Église. Si Élisabeth, de son côté, est bien la figure du fidèle recevant une visite de la part de Dieu, alors nous avons un second enseignement. Celui que la grâce précède toujours l'effort humain, comme Marie prend l'initiative de la visite à Élisabeth, dont la réponse du coup est seconde. Et la condition de réception de la grâce, c'est l'humilité, qui reconnaît tout don de Dieu comme gratuit et immérité, ce que fait Élisabeth en s'écriant « D'où m'est-il donné que la mère de mon Seigneur vienne jusqu'à moi ?» Oui, vraiment, à la veille de Noël, nous pouvons, en le transposant, reprendre ce cri. « D'où m'est-il donné que le Fils de mon Seigneur vienne jusqu'à moi ?» D'où m'est-il donné que Dieu se révèle comme l'Emmanuel, Dieu avec nous, Dieu avec moi ? Et la réponse, elle est dans le sourire de l'enfant de la crèche. Alors adorons, dans le silence, la parole qui vient à nous. Amen.